matin, Annie.
Bonjour Audrey, bonjour Maxime.
Ça va bien?
Oui!
Merci de te prêter encore au jeu ce matin. Ça a été super le fun la semaine passée. Puis j'ai envie peut-être, pour remettre la table pour ceux qui n'étaient pas là, de repartir avec la question de base. Qu'est-ce qui frustre les employés en 2025?
Eh, c'est ça. Puis là, Audrey, il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup des sujets qui frustrent. Moi, pour écrire le livre, là, j'en ai d'abord identifié 100. J'ai rédigé 60 chapitres, puis on en a retenu 40. Alors, c'est pour dire qu'il y en a de nombreux des trucs qui frustrent les employés. Souvent, il y a des choses qui sont frustrantes, qui sont reliées avec notre relation avec notre patron ou encore la façon dont le travail est fait autour de nous. Il y a quelque chose qui nous déplaît. Un collègue qui ne travaille pas comme on voudrait qu'il travaille, un patron qui n'écoute pas la recommandation qu'on propose. Souvent, c'est relié avec notre environnement professionnel. Puis ça, bien, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, Audrey, parce que plus on se ressent par rapport à ça, plus on se met dans une zone de pouvoir, nous, comme employés. Puis plus on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour influencer les événements, pour faire que je ne sois pas toujours dans ces frustrations-là. Fait qu'il y a beaucoup de ça qui se passe. Puis il y a tout un autre chapitre, je te dirais, sur, ma job est plate. Ma job est plate, j'aime plus ma job. On dirait que j'apprends plus rien. J'ai fait le tour du jardin. Puis là, je me demande, c'est-tu le temps de tirer la plug? Est-ce que je devrais aller voir ailleurs? Fait que ça aussi, un travail monotone, un travail qui ne nous stimule pas, qui ne semble pas avoir de sens, qui semble ne servir à rien, ça crée énormément de frustration.
Oui, parce qu'on n'est plus à une époque où tu es obligé de rester dans le même job toute ta vie, puis d'avoir ta montre là, au bout d'une couple d'années, puis d'endurer. Puis on a la chance de pouvoir faire peut-être un peu plus ce qui nous allume. Avant de se lancer justement dans ta table des matières, il y a quelque chose d'intéressant qu'on a abordé ensemble dans nos échanges avant d'entrer en onde la semaine passée quand tu m'as envoyé les idées de sujets, puis c'était relié à l'actualité un peu, c'est-à-dire les gens qui sont malades en ce moment. J'en fais partie. j'ai pas eu le choix de caler malade plus tôt cette semaine parce que j'aurais rien eu à faire ici en studio, là, vraiment, là, une larve, là, puis on est une coupe à la traîner, celle-là. Les billets médicaux. Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire quand tu calls malade aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que c'est l'employeur qui exige ou réellement, selon la loi, on est obligé?
Puis là, Audrey, tu fais tellement bien d'amener ce sujet-là parce qu'il y a eu justement des changements législatifs. Il y a des nouvelles conditions dans lesquelles l'employeur peut et ne peut pas demander à un employé de fournir un billet de médecin. Fait que je regarde ça avec toi. Souvent, l'ancienne croyance, puis pendant longtemps, la règle qui régnait, c'était pas une règle légale, c'était comme une bonne pratique. Ce qu'on faisait, c'est après 3 jours d'absence consécutive, l'employeur demandait un billet de médecin pour motiver l'absence. Tu te souviens de ça, Audrey?
Oui, absolument.
Maxime, vous avez déjà vu ça, hein?
Oui, puis je trouve ça logique, fait que j'ai hâte de voir où on s'en va.
Alors, avec la nouvelle législation qui est entrée en vigueur en 2025, l'employeur ne peut plus demander un billet médical à partir de la 3e journée systématiquement. Voici dans quel contexte il va pouvoir le demander. Après 3 absences de 3 jours et moins, donc à la 4e absence, là, il va pouvoir demander un billet de médecin, ou à partir de la 4e journée d'absence maladie consécutive. Fait qu'on voit, ça vient changer les règles. La raison pour ça, c'est une loi qui avait été votée en 2024 pour alléger la charge administrative des médecins. Puis là, ce n'était pas ta question, Audrey, mais je me permets d'ajouter un autre élément qui vient de cette même législation. Tout ce qui a trait aux absences familiales. Même chose, les entreprises vendaient souvent des billets médicaux pour justifier, par exemple, un parent qui s'absentait du travail pour aller à la clinique médicale avec un enfant ou rester à la maison avec un enfant malade. Maintenant, les entreprises ne peuvent plus demander un billet médical pour justifier une absence familiale. Ceci étant dit, ils peuvent demander un autre type de preuve. Ça pourrait être, par exemple, un coupon de stationnement, ça pourrait être une facture de pharmacie ou encore même un document signé, mais pas du médecin. Il faudrait que ce soit du réceptionniste, par exemple, dans une clinique médicale.
Okay.
Fait que tout ça est venu changer la donne.
Puis, on a combien de congés, je vais dire, en tout? Tu sais, il y a les absences maladies, il y a les congés familiaux. Là, j'ai entendu dire, je ne sais même pas si c'est vrai, là, écoute, je vais avec des oui-dire, mais j'ai entendu dire qu'on avait des congés de santé mentale maintenant aussi au Québec.
Je pense que ça dépend des entreprises.
Bien, c'est ça, je me demande. C'est-tu pareil partout? Ça dépend d'où tu travailles. Tu sais, moi, je sais qu'ici, chez Leclerc Communication, on a jusqu'à 13 jours différents quand tu les assembles tous ensemble là, pour les différentes raisons. Parce que je pense que tu as des affaires de deuil aussi qui rentrent là-dedans. Fait que comment ça fonctionne, mettons, pour le commun des mortels?
Ben, ça nous dit que votre employeur est généreux envers ses employés, probablement très sensible à leur réalité. C'est généreux comme politique de vacances. En fait, vous avez un petit peu les deux raisons. Maxime, il disait, il faut aller voir dans notre employeur. Effectivement, on a des politiques internes dans les organisations. Puis là, c'est au gré de l'employeur. Certaines sont plus généreuses, d'autres non. Mais il reste que, comme tu disais, Audrey, les normes du travail prévoient un minimum de ce qui est offert aux employés. Présentement, ce que ça nous dit, c'est que les employés ont droit à 2 journées d'absence maladie par année rémunérées et jusqu'à 10 journées d'absence, soit familiale maladie dans l'année, mais les 8 autres journées sont non rémunérées.
Ah ouais,
Donc,
OK.
il y a les deux. Mais ça, c'est les normes minimales du travail. Donc, on comprend qu'il est logique que les employeurs soient un peu plus généreux que ça, mais au moins tout le monde a
Mais
bénéficie de cette
c'est tellement
protection-là.
plate ce que je vais dire, Annie, mais mon premier réflexe d'employé, c'est de me dire de quoi j'ai 10 jours d'absence non rémunérée. Si je suis non rémunérée, m'a prendre 3 semaines, c'est faux. Comprends-tu ce que je veux dire? Dans la mesure où je me dis la règle, elle vient d'où à ce niveau-là?
Ben, alors, ben, notre législateur a dû déterminer jusqu'à quand on va conserver le lien d'emploi avec un employé s'il y a une absence prolongée. Et là, si l'absence est prolongée plus que ça, il y a d'autres règles qui vont se rentrer en ligne de compte. C'est assez complexe, tout ça. Mais vous savez, moi, une chose que je trouve intéressante, c'est que dans les équipes de travail, au-delà de la loi, cette notion de l'absence pour des fins de maladie, ça cause souvent des conflits ou des polarités.
Ben oui.
En fait, c'est comme s'il y a des gens qui ont différentes écoles de pensée. Si vous me permettez, vous me direz, vous, comment vous pensez. Il y a des gens d'un côté du ring, je dirais, il y a des gens qui vous diront, non, non, si tu es malade un petit peu, là, là, go, force-toi, va travailler,
Ouais.
parce qu'en ton absence, les collègues doivent pallier ton travail. Fait que là, tu sais, tu peux pas être absent tout le temps. Fait que force-toi un petit peu, là. Tu peux pas juste pas travailler toute la semaine parce que ce matin-là, tu avais un petit peu la gorge éraflée. Puis de l'autre côté du ring, t'as ceux qui diront, ben non, si t'as des symptômes de grâce, reste chez toi, viens pas travailler, tu vas tout nous contaminer. Puis les gens disent, moi, je veux pas fréquenter un collègue de travail dans ces contextes-là. Fait qu'eux sont, non, non, justement, tu te lèves le matin, reste chez vous de grâce. Fait que ça, on voit, c'est pas légal, là. Ça, c'est une question de point de vue, puis ça crée des tensions dans les équipes de travail.
Absolument. Bien, il y a une pression aussi. T'sais. Moi, cette semaine, j'ai collé malade, puis je peux compter sur mes doigts là, dans ma jeune carrière. Mais tout court, même quand j'étais aux études, là, le nombre de fois que j'ai collé malade, je veux dire, il fallait vraiment que je sois tapis-tapis, là.
Ah, moi aussi, je suis dans
Puis,
ce...
et que j'ai
Surtout...
de la misère. Je sais pas pourquoi c'est tellement niaiseux. Juste mardi, quand j'ai collé malade, là, j'étais là, ah, mais là, je vais finir de préparer les affaires là, pour l'open mic à Max. Je vais finir de faire telle affaire pour mon équipe en après-midi. Tu sais, on dirait que tu as comme un besoin de prouver que tu vas faire tout ce que tu peux.
Ouais.
Et pourtant, je veux dire, elle est là parce qu'elle est là, puis si tu files pas, reste chez vous, tu sais.
Moi, une affaire qui ajoute à ça en plus, c'est que moi, mettons que je me réveille un matin puis que je suis KO, ben il y a personne qui va venir me remplacer là. C'est que je mets Marceau puis Jeff dans marde qui vont devoir
On se met
faire
une
le show à
pression,
deux,
ouais.
t'sais, à 4 h le matin là, qui tu vas appeler pour remplacer le monde d'or là. Fait que je me dis bon, moi y aller puis au pire, peut-être que demain si je fais encore terrible, là on verra. Parce que là, au moins, on va avoir pu prévoir un remplacement. Mais c'est clair que si je me lève KO un matin, puis que le soir d'avant, ça allait super bien, puis qu'il n'y avait rien de prévu pour me remplacer le lendemain, de très, 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 très bonnes chances que je sois ici.
Alors, vous voyez, vous êtes dans le même clan, mais tout ça cause, je vous dirais, ça cause vraiment des tensions puis des perceptions différentes. Puis on dirait que depuis la pandémie, les gens ont une sensibilité accrue au fait du partage là, des contaminations. Fait que les gens sont particulièrement sensibles par rapport à ça.
Puis, mais pourquoi c'est autant mal vu? Moi, c'est ce qui m'a toujours fasciné. C'est comme si quand tu colles malade, t'es faible, toi, là. T'étais dans le temps, on sortait avec nos. T'sais, tu comprends ce que je veux dire? On dirait que t'es pas correct, là, d'utiliser tes congés maladie.
Mais moi, je vous dirais d'un point de vue ressources humaines, nous, on va dire aux gens, si vous êtes malade, restez chez vous. D'abord, on veut des gens qui sont bien, donc il faut récupérer. Ça ne donne rien d'étirer l'élastique puis de prolonger la période de maladie. Puis aussi, pensez aux autres collègues de travail. Mais d'un autre côté, souvent, on va aussi penser, ben, si vous ne vous sentez pas bien, puis c'est possible, télétravaillez. Donc, travaillez de chez vous.
Pas
Pas
faux.
besoin de prendre le risque de contaminer les autres, mais non plus d'imposer à des collègues, comme ce que disait Maxime, d'imposer à des collègues une charge de travail additionnelle. Fait qu'il faut trouver cet équilibre-là. Souvent, du point de vue des gestionnaires, c'est la normalité. T'sais, si tout le monde a pris une, deux journées de maladie dans l'année, là, il y a Paul qui en a pris 25, ben là, manifestement, il y a quelque chose d'anormal à travers
Paul
ça.
va pas bien.
C'est ça. Mais autrement, il faut se sentir légitime. C'est correct de prendre les journées de maladie dont on a le droit lorsque nous sommes réellement malades.
Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on parle avec Annie Boilard, présidente de Annie RH et maintenant auteure du livre « Le problème, c'est le boss, enfin je pense ». On va rentrer dans la table des matières. Il y a plein de sujets qui tirent un peu partout. Boss, peux-tu me laisser faire ma job sans me checker tout le temps? Comment on gère ça, cette espèce de pression-là du patron qui n'est pas capable de se mêler de ses affaires?
Le micro-management. Boss, t'es sur mes...
Je pense que c'est
boss
ici.
À mon travail.
Ah non, ça va. On t'avait perdu quelques secondes. Je pensais que nos boss ici avaient coupé ça parce qu'ils voulaient pas que tu parles. Hey, là, ça va pas. Ils coupent le réseau.
Annie, est-ce que t'es là?
Écoute-moi bien, boss, là. Soit tu m'engages, tu me fais confiance, puis tu me laisses travailler, ou encore, tu me fais pas confiance, puis là, tu le fais à ma place. Mais tu sais, choisis entre les deux. Donc, c'est sûr que ça cause des frustrations pour les employés. Là, on va se le dire, le micromanagement, là, ce n'est pas à la mode en 2025. OK? Fait que les patrons, là, adeptes de ce concept, là, il faut faire confiance aux équipes. Si vous les engagez, vous les formez, vous les gardez à votre emploi, c'est parce que quelque part, ils doivent être bons. Bon, bien là, rendu là, faites-leur confiance puis lâchez le micromanagement. Des fois, il faut s'entendre sur une stratégie de suivi, par exemple. Là, les patrons vont avoir besoin de savoir comment les choses évoluent, puis ça, c'est légitime, puis c'est normal. Mais il faut qu'on s'en parle, employé-patron. Si le patron appelle à toutes les 20 minutes pour savoir ce qu'on en est rendu, l'employé vire fou, puis ça vient affecter aussi sa motivation. Alors, il faut qu'on ait cette conversation-là de qu'est-ce qui te convient, boss, comme suivi, mais qu'est-ce qui me convient à moi également.
Si mon collègue file pas, le boss dit que c'est pas de nos affaires. Est-ce que je m'en mêle ou je m'en mêle pas? Tu sais, des fois, avec des collègues, tes proches, tu veux quand même prendre le pouls, tu veux être là pour les gens autour de toi.
Absolument. Puis des fois, on sait que le collègue ne va pas bien, mais on soupçonne que ce soit pour des raisons personnelles. Exemple, des enjeux financiers, par exemple. Puis là, on se dit, mon collègue, là, il ne m'a rien demandé. Est-ce que je suis légitime d'intervenir ou je ne suis pas légitime? Puis la réponse, moi, je vais vous dire, la réponse, moi, je ne connais personne qui a regretté d'avoir tenté d'aider quelqu'un alors que ça n'avait pas été sollicité. Mais je connais des gens qui ont regretté de ne pas avoir fait quelque chose avant alors qu'ils pouvaient le faire. Alors, il y a des façons de le faire. Il faut le faire de façon discrète. Il faut le faire de façon très bienveillante. Le collègue ne nous doit rien. On n'est pas obligé, il n'est pas obligé de nous donner des réponses. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est prédisposer la table, mettre la table pour avoir cette conversation-là. Et là, si tu te demandes, Audrey, mais comment on fait ça? C'est aussi simple. Moi, je vais le dire aux gens, là, suivez votre cœur. Ça va vous venir tout seul. Ce qui se passe, c'est que vous observez des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre collègue. Hein, votre collègue, il arrive en retard, il est cerné, il a la mèche courte, il est tout le temps fâché, il est mêlé. Il y a quelque chose que vous observez qui vous fait signe qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas.
On le sent généralement.
Hein? Oui, des fois, c'est aussi simple que de commencer la conversation par « Hey Paul, je suis préoccupé pour toi. T'sais, j'observe que… » Puis je me demandais « Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce qu'on pourrait en discuter? » Si Paul il dit non, ça arrêtera là. Mais on essaie d'aider. Puis, tu sais, c'est pas de mes affaires. Je trouve que c'est se la donner un peu facile en 2025.
Aussi, dans la table des matières, l'autre qui pogne les nerfs à tout bout de champ à job, plus capable, boss, allume. Je pense qu'on peut élargir ça un peu à juste un collègue qui est tout le temps trop, tu sais, tout le temps too much, puis qui dérange tout le monde autour. Il y a tout le temps quelque chose.
Ben oui. Alors, oui, le collègue qui est trop « too much », là, puis là, là-dedans, il y a plein de choses. Le collègue qui est toujours fatigué, le collègue qui est toujours pressé et puis débordé. Alors, il y a plein d'éléments. Mais, tu sais, celui qui s'énerve, là, tu avais commencé, Maxime, tu disais « mon collègue pète sa coche tout le temps, boss, bordel, fait quelque chose », tu sais. Puis là, l'employé, là, il a raison. J'espère qu'il n'y a pas d'ambiguïté, là. Personne n'a à endurer quelqu'un qui pète sa coche. Il y a un terme pour ça, ça s'appelle de l'incivilité dans le milieu de travail. Fait que le collègue qui se fâche, ou le patron, là, c'est pas grave, qui se fâche soit contre des collègues ou même avec un client, tu sais, la personne qui bourrasque, elle cogne sur son bureau, elle brûle ses crayons de façon bruyante et violente, des fois elle parle fort, elle monte le ton, ça s'appelle de l'incivilité. Et il est prévu que notre législateur nous dit qu'on a le droit, tous et chacun, à un environnement de travail civilisé. Alors, on n'a pas à endurer ça. Et oui, patron fait quelque chose. Puis si le patron ne fait rien, puis là, je vais vous dire, Maxime, là, la situation typique de ça, c'est ça fait 20 ans qu'on travaille avec Paul. On sait, Paul, il est de même. Quand il se fâche, là, il se met à bougonner un peu, là, mais faites-vous-en pas, demain, il va être revenu normal. Okay? Puis là, on embauche une nouvelle personne dans l'équipe. La nouvelle personne, elle arrive, puis elle fait « Hein? Mais comment ça, c'est normal que Paul, il se mette à bougonner comme ça? » Puis souvent, c'est à travers les yeux de la nouvelle personne qu'on fait « Hein? » On avait oublié qu'on accepte l'inacceptable à travers ça.
Peut-être pas normal.
Alors, c'est souvent ça qui déclenche pour le gestionnaire, puis on va dire au boss « Mets tes culottes de boss, parce que personne n'a à subir les émotions des autres. » Peut-être on va accompagner Paul. Paul a peut-être besoin d'outils en intelligence émotionnelle, en gestion du stress. Absolument. Mais on ne peut pas juste dire, ben, il est de même, fait que fait avec. C'est pas de même, ça marche maintenant.
Il y a un chapitre qui me fait particulièrement rire. Ça s'appelle « C'est clair que la nouvelle boss a eu sa job parce qu'elle est cute, parce que pour le reste, pas fort. La beauté au travail. C'est vrai que ça a un impact, Annie?
Oui, et ça, là, ça, on se pose souvent ces questions-là. Puis Audrey, hein, je te donne le crédit pour ça, c'est nommé dans le livre, mais initialement, c'était toi qui avais emmené cette question-là. Qu'est-ce qui se passe dans les entrevues d'embauche et sommes-nous encore en 2025 influencés par l'apparence des gens? Puis là, hein, moi, comme n'importe qui, souhaiterais vous dire, ben non, on a passé par-dessus ça en 2025, il n'y a personne qui est influencé par l'apparence.
On mentirait au monde si on allait là.
Malheureusement, oui. Puis, tu sais, comprenez-nous bien, là, moi, je suis en ressources humaines. Nous, en ressources humaines, on est payés pour recruter les meilleures personnes pour faire la job. Imaginez comment ça nous tire au cœur là, de se faire dire qu'on peut se faire influencer par des choses accessoires comme l'apparence puis la couleur des cheveux pour choisir du talent. Tu sais, ça nous fait mal au cœur. Nous, on se bat contre ça. On se bat, en fait, contre ce qu'on appelle les biais cognitifs,
ouais,
qui sont en soi là, des préférences cérébrales qui vont faire qu'on va retomber dans les mêmes patterns de décision et qui vont faire qu'on va se laisser influencer par des éléments superficiels comme ça. Alors, il y a des techniques. Il faut d'abord prendre conscience de nos biais cognitifs. Il faut ajuster nos processus de recrutement pour tenter le mieux possible de les éviter. Mais il faut faire des actions parce que par défaut, on tombe dans ce piège-là. Puis s'il y a des gens qui sont sceptiques, là, pensons-y, là, des gestionnaires qui recrutent puis qui disent « Oh, moi, je cherche un fit pour mon équipe. T'sais. Quand je vais trouver la bonne personne, là, c'est sûr, je vais le savoir, je vais le sentir. » Bien ça, c'est prédisposer les choses à se faire influencer par nos biais cognitifs. Et si le gestionnaire dit après, hey, « Moi, j'ai pas de chance quand je fais du recrutement. On dirait que je recrute jamais la bonne personne. La personne, elle quitte, il y a quelque chose qui va pas. » Bien, je vais dire, gestionnaire, tu ne fais pas bien ta job. Mmh. C'est parce que tu te prédisposes à laisser tes biais cognitifs avoir tout l'espace dans ton processus décisionnel. L'alternative, c'est soit clair dans ton processus de recrutement, et des critères clairs, des questions d'entrevue uniformes, une façon uniforme de documenter les réponses. Fais-toi challenger par quelqu'un qui n'était peut-être même pas présent lors de la rencontre d'entrevue. Et là, ça va te permettre de prendre du recul puis d'essayer d'éviter de tomber dans ces biais cognitifs. Mais c'est tellement une bonne question, Audrey, parce que c'est un peu gênant, mais l'humain est ainsi fait. Notre cerveau va faire qu'on va avoir une prédisposition à s'entendre, à apprécier les gens qui nous ressemblent ou qui ont des histoires qui ressemblent aux nôtres.
Bien, c'est pas pour rien qu'on parle souvent de première impression, entre autres. Là. Je veux dire, ça joue dans nos têtes définitivement. Là. Ça me fait rire parce qu'il y a deux chapitres qui, pour moi, peuvent se rejoindre d'une certaine façon. Il y en a un qui c'est encore la motadine d'auto-évaluation. Sérieux, je suis supposée écrire quoi cette fois-ci? Puis l'autre, c'est encore une mosus de réunion qui donne rien. On va-tu en finir? Ça me fait rire parce que je me demande toujours... Pourquoi? Moi, je suis de l'école de... Quand il faut aborder quelque chose, tu l'abordes là. Moi, mettons, je sors d'une émission ici. Si on a trouvé que mon segment il était mauvais, bien, accroche-moi puis dis-moi, « Hey, by the way, ce matin, je changerais telle affaire à partir de demain. » Parfait, moi, je continue mon chemin. Mais de toujours avoir des réunions, de toujours avoir des auto-évaluations et ou des évaluations faites, des fois, je me dis, pourquoi faut attendre 6 mois, mettons, avant d'en parler? Là?
Bon, il y a beaucoup de choses... tellement utile et pertinente dans ce que tu viens de nommer, Audrey. D'abord, les auto-évaluations. Souvent, les gens disent « Hey, boss, Ça fait 10 ans que je travaille ici. Je suis la même personne. Je travaille pour le même boss, puis je fais la même job. Puis tu me demandes encore de compléter le même formulaire.
Qu'est-ce que tu veux que je dise de
Ben,
plus?
devine-toi, m'a t'écrire la même affaire que je l'ai faite dans les 10 années
Oui.
précédentes. Je pourrais retourner chercher dans mon tiroir la version de l'année passée, puis je te resoumettrais. Pourquoi les gens me demandent tout le temps de compléter cette affaire-là? Ça ne change pas tant que ça la vie. Alors, ça, c'est souvent un biais, mais je vais vous dire, c'est dans l'intérêt de l'employé de bien compléter son auto-évaluation. Ça peut permettre au gestionnaire de voir des choses qui avaient été omises dans le processus. Puis la quête derrière ça, tu sais, moi, je dis ça aux gens, c'est pas pour embêter personne, mais l'évaluation ultime, qui est notamment nourrie par l'auto-évaluation, elle a une incidence sur les augmentations salariales et les bonus. C'est pour ça qu'on veut bien le faire. On veut être évalué puis reconnu pour l'ensemble de notre prestation de travail. Alors, il y a des trucs, même quand on a l'impression que c'est redondant puis c'est tout le temps pareil, il y a des trucs pour bien utiliser cette évaluation.
Wow.
Là, tu disais les réunions.
Hé, ça me fait rire, moi, ça.
Allez, mon os de réunion. Puis ça, je vais dire, en général, là, les gens se plaignent des réunions au travail. Tout le monde est d'accord là-dessus.
Ben,
Mais
moi,
là,
j'ai... Les réunions, quand il y a du contenu, puis que je sors de là, puis j'ai l'impression de pas avoir perdu mon temps, ça, j'ai aucun problème. J'aime ça même. Mettons une vraie bonne réunion, là, que
c'est
on...
nécessaire des fois,
Oui,
là.
qu'on a du vrai contenu. Cool. Le problème, c'est les réunions que tu sors de là, après une demi-heure, 45 minutes, tu fais « Hey, simonac que j'aurais pu mettre ce 45 minutes-là ailleurs. »
Bon, ben Maxime, c'est tellement génial, c'est précieux ce que tu viens de dire parce que tu vas illustrer exactement le propos que je vais porter. C'est-à-dire, en général, les gens, les réunions, ça leur déplaît, ils ont l'impression de perdre leur temps. Puis là, on se dit un peu comme disait Audrey tantôt, ben pourquoi on fait encore ça, tu sais? On me semble qu'on pourrait pogner le mémo, là, rendu en 2025. Ça emmerde le monde, on peut s'arrêter? Alors, mais ce qui se passe, c'est que les réunions, ça demeure le processus démocratique des entreprises. C'est comme ça que les entreprises consultent les employés. Mais le cœur du problème, puis Maxime, tu l'illustrais tantôt, c'est que quand on demande aux gens, êtes-vous tanné des réunions? Les gens disent oui. Mais quand on leur demande pourquoi, les réponses varient. Donc, il n'y a pas une seule solution simple qu'on pourrait juste intégrer puis finir avec ce problème-là. Exemple, Maxime, tu disais, moi, j'aime ça quand c'est productif, efficace, puis ça donne quelque chose pour moi. Mais il y a des gens qui diront, moi, j'aime ça une réunion quand on prend le temps, par exemple, de connecter les uns avec les autres, qu'on fait un tour de table, qu'on se demande comment ça va. Moi, juste une réunion pour avoir de l'information puis être efficace, ça me déplaît. T'sais, moi, je veux une réunion pour connecter avec mes collègues parce que je me sens seule. Fait que tu vois, le problème, ce que les gens reprochent aux réunions, moi, change d'une personne à l'autre. Donc, évidemment, les solutions aussi. Et c'est pour ça qu'on arrive difficilement à trouver une formule qui plaise à tout le monde. Donc, ça prend de la flexibilité. Il faut un peu tout le monde mettre de l'eau dans son
Dans son vin, parce que
réunion. Des grandes réunions, là, ça ne marche plus maintenant.
je veux finir avec un chapitre que je sais même pas si tu l'as dans ton livre, puis au pire, ça pourrait aller dans le 2. Je vais te parler d'une situation, Annie, puis tu pourras me dire si c'est lié à un chapitre, puis Audrey va sourire peut-être. On fait quoi avec un collègue? Que pour lui, c'est ses façons qui marchent tout le temps, puis que c'est lui qui fait le mieux sa job, puis que... Parce que moi, je suis de même. Moi, je sais qu'il y a des affaires que je fais bien, puis en tout cas, j'ai du moins la prétention de bien faire, puis que pour moi, c'est ma façon la meilleure, tout le temps. C'est ma façon, puis parce que moi, j'aime ça quand c'est fait à ma façon. Comment les collègues doivent gérer ça?
Maxime, c'est délicieux. D'abord, ce qui est sympathique dans ta question, c'est que dans ton histoire, tu es le collègue, tu n'es pas le patron. Parce que des fois, c'est les patrons qui veulent que ça soit fait à leur
Ah,
façon.
c'est
Et
vrai
on
ça.
revient à la question d'Audrey tantôt sur le micromanagement. Mais toi, tu dis, moi, je suis le collègue. Et ça, là, il y a énormément là-dedans. C'est le fun que tu oses le dire, Maxime, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vivent de la frustration parce qu'ils diront, mes collègues ne font pas bien leur job. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que mes collègues ne font pas leur job comme moi, je voudrais qu'ils la fassent. Et là, ça devient de la rigidité pour tout le monde, puis ça crée des clashs, puis ça crée des tensions dans les équipes. C'est vraiment un appel à la flexibilité, à l'ouverture. Tout le monde a ses façons de faire et ses préférences. Souvent, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Faut accepter d'avoir de la flexibilité, puis de collaborer les uns avec les autres. Et ultimement, je dirais, Maxime, en général, les entreprises ont des valeurs qui vont venir toucher le travail d'équipe ou la collaboration, où il y a quelque chose de respect, il y a quelque chose là-dedans dans les valeurs organisationnelles. Et souvent, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que même quand nous, on a nos préférences, on est là pour collaborer avec quelqu'un. Si nous, on préfère faire de A à Z, on a peut-être un collègue qui préfère faire Z à A, donc le faire à l'envers de nous. Mais on arrive à Rome pareil. Alors, à nous tous de faire preuve de flexibilité. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que c'est un chemin de vie, là. Il n'y a personne qui règle ça en une journée, mais il faut travailler sur son flexibilité, son ouverture, parce que les changements sont omniprésents, ils s'accélèrent dans les milieux de travail. Et plus on reste dans des postures qui sont cristallisées, qui sont figées, ben plus on vit de la frustration au quotidien.
Annie, c'est toujours super intéressant, puis j'ai pas le choix de te dire qu'il me reste encore une page de table des matières. Fait qu'écoute, on pourra potentiellement se faire une partie 3 si t'as envie. C'est toujours super apprécié. Évidemment, les gens réagissent, on travaille toutes, fait qu'on en vit toutes des situations à job, là.
Ben, ça fait très plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine à vous deux.
Rappelle-nous où on peut trouver ton livre.
Dans toutes les librairies, notamment Renaud-Bray, en ligne ou en librairie, mais aussi toutes les librairies, là, pour l'instant, ont le livre. Donc, le titre, c'est « Le problème, c'est le boss. Enfin, je pense. » C'est important, la parenthèse. « Enfin, je pense.
Annie, un gros merci. Je
Merci.
te souhaite une belle journée, puis on se rejoint bientôt.
Merci à vous deux.
Salut,
salut, bye-bye.
Est-ce que tu es content que j'aille aborder le dernier point,
Ça me
Audrey?
Fait vraiment rire.
Mais je fais attention. Je fais attention.
Mais le pire, c'est que ça me fait rire parce que on a eu une fois cette discussion-là ensemble, surtout parce que j'ai un peu ce côté-là aussi. Je suis très, très, très perfectionniste.
Mais là, tu m'as dit que c'est moi qui avais ce côté-là, par exemple. Puis t'es pas passé par quatre chemins.
Non, je suis pas passée par quatre chemins, effectivement. J'ai manqué de délicatesse. Mais c'est que Max et moi, je pense qu'on est deux. Tu me dis si je me trompe, on est deux personnes très performantes.
Oui, et perfectionnistes.
Très exigeantes envers nous-mêmes puis envers les autres.
Oui.
Très perfectionnistes. Fait qu'on se challenge, ce qui est le fun, puis ce qui est pertinent, je pense. On challenge beaucoup les autres aussi, ce qui n'est pas toujours bien accueilli. Mais ouais, puis je me souviens d'une fois où Max m'a remis en question, puis j'étais comme, hey, attends une minute, là.
C'est pas tout le temps juste ta façon de faire qui est la bonne. Tu te prends pour qui? Non, il n'y avait peut-être pas le tu te prends pour qui, là, mais t'es pas loin.
Mais ça a été une belle discussion. Mais en même temps, on se reconnaît tous là-dedans, puis je pense qu'il y a du bon au final, tu sais.
Parce que si on le fait, si on fait quelque chose selon notre façon de faire, ben inévitablement, c'est parce qu'on pense que notre façon de faire est la meilleure. Fait
que j'imagine que l'exigence vient du fait que ça nous tient à cœur. Moi, c'est tout le temps
ben
ce que
oui.
je me dis.
Ben,
fait que...
Puis moi, un des problèmes à cause de ça, souvent, c'est que je vais en prendre plus que je devrais sous mes épaules. Puis en disant, hey, regarde, je vais m'occuper de tout.
Ouais,
je vais m'en occuper comme ça. Je vais être sûr que c'est bien fait. Puis si c'est pas bien fait, ben la seule personne avec qui je vais pouvoir être frustré, c'est moi-même.
Ouais.
Puis je préfère
ah,
ça.
Je te comprends
ouais,
tellement. Au lieu de tenir de la grogne. Et juste te dire, avant de te laisser, là, il y a Nicolas qui nous écrit qu'il y a un accident sur Duplessis Nord. C'est complètement bouché juste avant Leclerc, Félix Leclerc, j'imagine, donc la capitale. Quand tu vas pour prendre la bretelle. Là,
merci, mais la circulation ici, c'est pas toi.
Je voulais te donner un coup de main.
Je sais, merci.
Hey, salut
Audrey.
Max, c'est vraiment le fun.
C'est très gentil, Audrey.
Bye, là.
Merci beaucoup. Et merci à...
Ça m'apprendra, venez te voir.
C'est Nicolas qui a écrit. Merci, merci Nicolas. Il y en a quelques-uns des problèmes de circulation, là.
Ah, c'est ça, je vous disais, il veut toujours que ça soit fait comme lui. Il voudrait que ce soit fait.
Exactement.
Bye.
Ben, pour la circulation, je pense que les gens vont être contents que je le fasse à ma façon. ce qu'on nous dit via le Québec 5-1, là, officiellement, il y a quelques minutes, on nous dit que Duplessis Nord, entre chemin Sainte-Foy et boulevard Diversant Nord, la voie de droite qui est bloquée en raison d'un trou dans la chaussée. Dans les prochaines minutes, on reçoit William Nadeau, un gars qui gagnait tellement à mise au jeu que mise au jeu a décidé que à cette heure, le maximum qu'il allait pouvoir miser par mise, c'est 93 cents. Puis lui, il dit, OK, t'as peu, là. Mise au jeu fait ses pubs pour dire « Hey, on est le seul site légal au Québec, venez avec nous, nanana. » Puis là, on me bloque de même. Fait que moi, qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Il le dit pas de même, mais il trouve ça ironique. Bref, on lui jase. Puis il y a Pascal CV qui va venir faire son tour aussi.
Le point max.